Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Suite et fin de notre épisode sur le soleil. Nous avons étudié la physique du soleil. Voyons aujourd'hui son influence sur les cultures humaines. Le soleil est un symbole omniprésent dans l'humanité, qui occupe une place dominante dans chaque culture. Il n'est dès lors pas étonnant que cet astre ait été personnifié un très grand nombre de fois. D'une façon générale, le soleil est vu comme un principe masculin et actif. Certains peuples nomades d'Asie le considèrent toutefois comme un principe féminin, la mère soleil. C'est aussi le cas des Japonais, pour qui le soleil, c'est Kami Amaterasu, la grande déesse, sœur de Tsukuyomi, le Kami de la lune. Dans la langue allemande, le soleil est féminin selon son article. Comme le soleil est synonyme de vie, il est souvent associé au pouvoir. Si le soleil n'est pas directement associé à un dieu, des personnalités l'ont associé à eux-mêmes, comme le roi de France, Louis XIV, surnommé le roi soleil. La famille impériale japonaise se targue de descendre de la déesse du soleil. Dans l'Égypte antique, Ra, ou Ré, est le dieu soleil. C'est un des dieux des plus importants. Et Akhenaton en fait son dieu unique, sous le nom de Aton. Dans le panthéon grec, c'est Apollon, le fils de Zeus et de la titane Leto, qui incarne le soleil. Mais citons aussi Hélios, qui est la personnification du soleil lui-même. Dans le 10e des 12 travaux d'Hercule, le héros grec emprunte à Hélios le char du soleil pour aller tuer Gérion. Dans la mythologie romaine, Sol, c'est le dieu du soleil, de la lumière et de la chaleur. C'est le frère de Luna, qui symbolise le cycle des saisons. Sol, c'est aussi la personnification du soleil dans la mythologie nordique. Dans l'Edda en prose de Snorri Sturluson, un homme nommé Mundilfari avait deux enfants si beaux, qu'il les avait nommés l'un Mani, qui veut dire lune, et l'autre Sol, le soleil. Agacés de cette prétention, les dieux placèrent le frère et la sœur dans le ciel, où Sol conduit les chevaux Arvak et Alsvid, qui tirent le chariot du soleil. Et Sol est poursuivi par le loup Skol, qui finira un jour par l'attraper. Les Aztèques appelaient Huitzilopochtli le dieu du soleil de la guerre, le maître du monde. Et puis viennent ensuite les temps des études scientifiques. Le philosophe grec Anaxagore, au 5e siècle avant Jésus-Christ, fut un des premiers occidentaux à proposer une théorie scientifique sur le soleil, avançant qu'il s'agissait d'une masse incandescente plus grande que le Péloponnèse, et non du chariot d'Hélios. Cette audace lui valut d'être emprisonné et condamné à mort pour athéisme, même s'il fut plus tard libéré grâce à l'intervention de Périclès. Pour le philosophe Théophraste, au 3e siècle avant Jésus-Christ, le soleil est fait de petites particules de feu, rassemblées du fait de l'exhalation humide. En s'agglomérant, elles constituent le soleil. La première tentative de calcul mathématique de la distance Terre-Soleil a été faite en 250 avant Jésus-Christ, par Aristarque de Samos. Ce dernier soutient également la théorie héliocentrique. Un passage de l'Arénaire de Archimède décrit l'hypothèse d'Aristarque. Le soleil et les étoiles fixes, immobiles, et la Terre tournant sur elle-même et se déplaçant sur un cercle centré sur le soleil. À une époque où, selon Archimède, la plupart des astronomes adhéraient au géocentrisme, c'est-à-dire la Terre immobile, il semble que l'hypothèse héliocentrique d'Aristarque n'a pas eu grand succès. D'ailleurs, 100 ans plus tard, Claude Ptolémée déclare que la Terre est un corps stationnaire au centre de l'univers. Selon lui, ce sont le soleil, la Lune et les planètes qui tournent autour d'elle. Cette vision aura cours pendant presque 2 millénaires. Il faut attendre 1543, Copernic et son ouvrage « Des révolutions des sphères célestes » pour retrouver un modèle d'univers dans lequel le Soleil est le centre et les planètes tournent autour de lui. Au XVIIe siècle est venu le temps de l'observation. En 1610, Scheiner et Galilée observent indépendamment les taches solaires avec leurs lunettes astronomiques. Galilée se douta qu'elles se situaient à la surface de l'astre et qu'il ne s'agissait pas d'objets passant entre le Soleil et la Terre. Il affirmait ainsi que le soleil n'est ni parfait ni immuable, ce qui est une remise en cause complète du modèle d'Aristote et de son monde supralunaire immuable et parfait. L'observation du terminateur de la Lune, la limite entre l'ombre et la lumière qui révèle la présence de montagnes et d'irrégularités, étaya encore cette hypothèse. Peu de temps après, en 1644, Descartes énonce une théorie selon laquelle le soleil est une étoile parmi d'autres, et c'en est fini de l'héliocentrisme. De divinité, le soleil n'est devenu qu'une étoile parmi d'autres.
Je suis resté qu'un enfant, j'aurais grandi trop vite. Dans un monde en super plastique, je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jet et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je veux du soleil dans ma mémoire, je veux du soleil, je veux du soleil.
Soleil a quand même une chose unique, c'est que c'est l'étoile la plus observée de l'univers. Il est particulièrement observé pendant les éclipses solaires. Prenons un peu de temps pour revenir sur ce phénomène. Une éclipse solaire, c'est quand la Lune se place entre la Terre et le Soleil et cache entièrement ou partiellement la luminosité du Soleil. La Lune orbite autour de la Terre dans un plan qui fait un angle de 5 degrés par rapport au plan de l'écliptique, le plan dans lequel la Terre tourne autour du Soleil. Sans cet angle, chaque nouvelle Lune serait l'occasion d'une éclipse. Mais les éclipses n'arrivent que deux fois par an, quand la Lune coupe le plan de l'écliptique. Seulement, les éclipses n'ont pas toujours lieu sur la même région de la Terre. Certaines sont invisibles car elles ont lieu uniquement dans l'océan. Le hasard nous aide bien quand même, parce que le diamètre apparent de la Lune est proche de celui du Soleil. Vous savez que le diamètre de la Lune peut varier de 10% entre l'apogée, la ligne la plus petite, et le périgée, la Lune la plus grande. On peut donc avoir plusieurs types d'éclipses. Tout d'abord, l'éclipse partielle, qui se produit lorsque le Soleil et la Lune ne sont pas parfaitement alignés, et que la Lune n'occulte qu'en partie le Soleil. Puis, il y a l'éclipse annulaire, qui se produit quand le Soleil et la Lune sont parfaitement alignés avec la Terre. On dit que c'est une éclipse centrale, mais que la taille apparente de la Lune est légèrement inférieure à celle du Soleil. C'est-à-dire que le Soleil apparaît comme un anneau très brillant, entourant le disque lunaire sombre. Et enfin, l'éclipse totale se produit lorsque le Soleil est complètement occulté par la Lune. Le disque solaire, intensément lumineux, est remplacé par une silhouette lunaire noire, et la majeure partie de la couronne solaire devient alors visible. Durant toute l'éclipse, la totalité est observable uniquement sur une partie de l'étroit parcours de l'ombre sur la surface de la Terre. De chaque côté de cette bande, l'éclipse devient partielle. Et dans les zones où la Lune vient cacher le Soleil, le ciel s'obscurcit soudainement et pour quelques minutes. C'est sûrement cet aspect du phénomène qui, dans des époques reculées, mais aussi dans certaines cultures actuelles, attribue aux éclipses solaires des propriétés mystiques. Alors c'est presque toujours un phénomène funeste. En Asie, on rendait un dragon céleste responsable des éclipses. D'ailleurs, le plus ancien mot chinois pour désigner une éclipse, ça veut dire « manger ». En Inde, c'est Rahu et Ketu, les deux parties du démon décapité par Vishnu, correspondant respectivement aux nœuds ascendant et descendant de la Lune, qui cherchaient à dévorer la Lune et le Soleil. Quant à la Grèce ancienne, elle ne fit pas exception à la règle. D'après Démocrite, les éclipses de Lune et de Soleil auraient été au nombre des événements célestes terrifiants, inspirant aux hommes la croyance que les dieux en étaient les auteurs. La plus ancienne éclipse mentionnée pourrait être l'éclipse annulaire du 30 octobre de l'an 1206 avant Jésus-Christ. Cette éclipse pourrait correspondre à l'événement décrit dans le livre de Josué, où Dieu arrête la course du Soleil à la demande de Josué. Ce serait la plus ancienne référence datée d'une éclipse, mais elle est incertaine. En revanche, l'éclipse solaire du 15 juin 763 avant Jésus-Christ est bien mentionnée dans un texte assyrien. Elle est connue sous le nom de l'éclipse de Bur-Sagale. C'est la première éclipse solaire mentionnée par des sources historiques qui a été identifiée avec succès. Hérodote signale dans ses écrits que Thalès de Milet avait prédit une éclipse qui s'est produite pendant la bataille entre les Mèdes et les Lydiens, le 28 mai 585 avant Jésus-Christ. Les soldats des deux camps jetèrent les armes et proclamèrent la paix à la suite de ce phénomène. Mais il faut bien se garder d'accepter à la lettre tout ce que dit Hérodote. Thalès avait compris le phénomène, puisque il dit lui-même « l'éclipse de soleil se produit quand la Lune, dont la nature est terrestre, vient se placer à l'aplomb sous lui ». Mais il ne possédait vraisemblablement pas les outils pour prédire un tel phénomène aussi précisément. Les éclipses solaires sont évidemment des moments privilégiés d'observation du Soleil. Comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, il faudra bien sûr protéger vos yeux et votre instrument avec des filtres solaires. Et si vous avez un instrument, c'est très intéressant de pouvoir l'observer, observer la couronne solaire. Revenons d'ailleurs un petit peu sur les instruments, nous n'avons pas encore parlé des montures. Le rôle de la monture est important et multiple. Alors évidemment, il s'agit de soutenir l'instrument de manière aussi stable que possible, car toute vibration gêne l'observation, surtout à fort grossissement. Il faut éviter les montures d'aspect frêle comme un trépied à jambes très fines, car la stabilité risque vraiment d'être insuffisante. La monture sert aussi à diriger l'observation vers une région précise du ciel. Plus le champ de vision est étroit, plus il faut viser juste. Et éventuellement, la monture peut servir à suivre la trajectoire des astres dans le ciel. Il existe trois familles de montures différentes, azimutale, équatoriale et Dobson. La monture azimutale, c'est ce qui est le plus simple et le plus intuitif, avec des mouvements droite-gauche et haut-bas. Pour ceux qui privilégient la simplicité, c'est une monture parfaite. Alors évidemment, les astres que vous allez observer vont bouger dans le ciel. Avec une monture azimutale, il vous faudra agir sur les deux mouvements, droite-gauche et haut-bas, car l'astre décrit une courbe dans le ciel. Alors que si vous optez pour une monture équatoriale, une fois bien calibrée, vous aurez une seule molette à tourner puisqu'elle dispose d'un axe de rotation parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Vous pouvez même ajouter un moteur pour faire un suivi automatique de l'astre. Si jamais vous décidez de vous intéresser à l'astrophotographie, cette monture équatoriale est incontournable. Elle doit être particulièrement stable pour éviter tout bouger pendant les longues pauses. Il y a enfin la monture Dobson. Il s'agit d'une variante de la monture azimutale sans trépied, de conception simple mais efficace. On dit un Dobson pour désigner un télescope équipé d'une telle monture. Cette monture est directement posée sur le sol. Pour diriger le télescope, il suffit d'orienter à la main selon des directions haut, bas ou gauche-droite. Un mécanisme de friction assure un pointage très précis. Ce type de monture était économique par rapport à une monture équatoriale. Il est apprécié par les observateurs en quête d'un instrument de grand diamètre et dans un budget restreint. À partir d'un certain diamètre, plus de 250 mm, c'est quasiment le seul choix raisonnable, à moins de vouloir un vrai observatoire. En effet, les instruments équatoriaux de grand diamètre sont souvent onéreux et quasiment intransportables. Devant l'engouement suscité par la simplicité de la monture Dobson, les fabricants proposent également ce type de monture pour les instruments de petit diamètre, de 100 mm. On part alors de mini Dobson ou de Dobson de table. Certaines montures motorisées sont pourvues d'un système de pointage automatique, le GoTo. Il vous suffit de désigner votre cible sur un boîtier de commande et votre télescope se dirige tout seul dans la bonne direction. Alors attention, ceci a un coût et le système ne fonctionne que si vous avez fait une procédure d'initialisation qui passe par le pointage d'étoiles repères. On n'est donc pas dispensé de quelques efforts, mais n'oublions pas qu'il est aussi très satisfaisant de savoir naviguer parmi les étoiles sans autre assistance que les cartes du ciel.